Bonjour à tous.
Bonjour.
J'ai dit allô, personne n'a répondu. Bon, je commence, je vous fais une petite blague, histoire de détendre. Donc c'est quelqu'un qui appelle au téléphone et qui dit allô, et l'autre répond au téléphone, t'inquiète pas, c'est nager. Dit allô. Et l'autre répond au téléphone, « T'inquiète pas, je sais nager. » Il pensait que c'était « Allô ?» Bon, maintenant que vous avez ri, c'est bon. C'était un peu compliqué. J'ai même pas entendu qu'on m'a appelé. Mais je vais vous lire un petit texte. Et après, on va prier. Parce que c'est un peu... Je suis pas top en ce moment, mais... Merci Seigneur. Ok. Le ciel et la terre passeront, disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges du ciel, ni le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui était arrivé à l'époque de Noé arrivera au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Merci d'être venu nous chercher. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, merci parce que sans toi, nous étions perdus, mais tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher. Et Seigneur, tu nous as fait rentrer dans la bergerie et tu nous as fait la promesse de venir nous chercher. Et Seigneur, nous voulons repasser ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, que ce qui va nous donner de l'espérance, même si ce n'est pas toujours évident, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe ici-bas, mais Seigneur, tu nous as fait la promesse de venir nous chercher. Et nous voulons nous attacher à ta parole et pas aux circonstances. Merci, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus, amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc on est dans le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, où les disciples font remarquer à Jésus la beauté du temple, hein, qui était d'une beauté architecturale particulière. Je crois que c'est Hérode était particulièrement fier pour avoir initié la construction. Et les disciples, en fait, font remarquer à Jésus la beauté de ce bâtiment, de ce monument. Et Jésus leur dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. C'est une douche froide, je dirais. Il y a quelque temps, on a fêté les 120 ans de la tour Eiffel. Vous savez que la tour Eiffel a 120 ans. Elle n'a pas toujours été là, mais... 120 ans. Et imaginez, pendant que le maire de Paris, Anne Hidalgo, tout fier de dire « Oui, voilà la plus belle ville du monde », parce que les Parisiens sont tout fiers de la ville. Hein, enfin, en France, on est fiers de la ville parce que tout le monde dit « C'est la plus belle ville du monde ». Et imaginez le maire de Paris en train de présenter sa plus belle ville du monde et quelqu'un qui lui dit « Mais vous savez, Madame Hidalgo, cette ville va être détruite. Montmartre, Tour Eiffel ». Musée du Louvre, tout ce qui fait la fierté parisienne, ou si on vient près de chez nous, le pont de Pierre, et récemment le pont Chaban-Delmas, tout sera détruit. Je pense que on deviendrait très vite l'ennemi public numéro un. L'homme à abattre, on nous traiterait de fous. Et c'est ce qui se passe. Le temple d'une beauté particulière. Et Jésus dit aux disciples, ça faisait la fierté des Juifs. Ce temple, ce monument, et Jésus dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et il continue son discours, il dit, voilà, Vous lisez Matthieu 24, lisez tout le chapitre 24, hein, on ne pourra pas tout le lire, mais je vous ai pris une partie. Et il continue, au verset 35, il dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Quelle déclaration! Le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles ne vont pas disparaître. Donc on pourrait dire qu'il est présomptueux de dire ça, mais c'est Dieu. Tout ce qui faisait la fierté, tout ce qui fait notre fierté, parce qu'aujourd'hui, nos maisons, notre travail, enfin, ce qui fait notre fierté, le Seigneur Jésus dit, tout ça va disparaître. Mais ce qui va rester, c'est ma parole. Donc si notre temps, on passe notre temps à embellir nos maisons, à faire plein de choses, sauf nous concentrer sur la parole de Dieu, en fait, on risque d'avoir... Enfin, je suis désolé de vous l'apprendre maintenant, je vous le dis en avance, pour vous, pas que vous soyez surpris, un peu comme Jésus nous dit, je vous annonce ces choses pour quand qu'elles arriveront, vous sachiez, voilà, que vous ne soyez pas surpris. En fait, ça va être détruit. Si vous ne prenez pas du temps pour étudier la parole de Dieu, vous allez avoir des grosses déceptions. Parce que, en fait, dans ce monde, il n'y a rien de sûr. Même si on voit aujourd'hui opération Sentinelle, opération Écarlate, on a toutes les couleurs. Plan épervier, plan ceci, plan et cela, pour notre sécurité, parce qu'on veut protéger. Donc, mais en fait, la Bible nous dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent, gardent. En fait, garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas embellir nos maisons, ce n'est pas ce que je dis. Ne nous méprenons pas. Mais il faut qu'on ait à l'esprit que ce qui va rester, c'est la parole de Dieu. Donc le matin, quand tu te lèves pour aller travailler, bon, maintenant je ne vais pas mettre un joug sur toi. Il faut que tu prennes du temps pour le Seigneur. Parce que la force pour aller travailler, c'est Dieu qui te la donne. Les enseignements, la force que tu as besoin, nécessaire pour aller travailler, pour faire ce que tu dois faire, c'est Dieu qui te la donne. Si tu ne prends pas du temps pour Dieu, en fait, c'est très compliqué. Tout sera détruit, mais mes paroles vont rester. Quelle déclaration! Et c'est par cette déclaration que je voudrais introduire le message de ce matin. Nous allons parler du retour du Seigneur, vous avez compris. Et c'est important de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Parce que plus on étudie la parole de Dieu, plus on la comprend. Et mieux on comprend un peu l'environnement dans lequel on est. On comprend ce qui se passe. On n'est pas surpris parce que Jésus nous a dit ces choses. Je pense que ceux qui ont écouté les paroles de Jésus n'ont pas été surpris de voir la destruction de Jérusalem en l'an 70. Et Jésus avait dit que vous serez emmenés captifs dans toutes les nations. Et jusqu'aujourd'hui, on voit les Juifs qui sont déportés dans toutes les nations. Mais Jésus aussi avait fait la promesse de les ramener. On voit aussi le retour, la création de l'État d'Israël avant les années 40. Il n'y avait rien. Mais la résurgence de l'État d'Israël, c'était un miracle. Et les chrétiens d'époque pensaient que Jésus allait revenir de... C'était, ils ont dit non, si on a vu l'existence de la recréation de l'État d'Israël, c'est que Jésus est à la porte. Jésus dit, oui, ce sont des signes qui annoncent que Jésus est à la porte. Mes paroles vont rester. Tout sera détruit. Mais seule ma parole. Et nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous devons la chérir, la bichonner. Il y a dans certains pays où c'est fermé, ils n'ont pas accès à la Bible. Mais nous, on est là, dans notre chevet. Ça nous sert de livre de chevet ou de porte-bonheur. Bon, je ne vous accuse pas, ce n'est pas vous. Mais en fait, ça contient les paroles de la vie. Les paroles qui vont nous permettre de traverser ce monde, ce siècle, sans nous faire absorber par cette génération. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, enfin vous l'avez déjà ouverte, à faire un petit tour. Parce que Jésus nous parle, il nous dit, ce qui arrivera à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marier, marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 6. Le Seigneur Jésus va faire quelque chose de particulier. Il va utiliser un jugement passé de l'humanité pour nous parler d'un jugement à venir. Il en sera de même de l'histoire de Noé. Comme si, pour rappeler aux gens, ceux qui disent que bon, c'est des mythes, l'histoire de Noé, c'est un mythe. Non, Jésus se sert de cette histoire du passé pour interpeller les consciences des hommes, pour dire, à l'époque de Noé, ils n'y croyaient pas non plus. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il vous rappelle ça. Mais à l'époque du retour du Seigneur, ça sera pareil. Une histoire dans le passé, ancrage dans le passé, pour nous parler de quelque chose à venir. Ça, c'est important. Et on retrouve ça aussi chez Pierre. On va y aller. Genèse 6, à partir du verset 9. Et c'est important pour nous de tirer, de comprendre les enseignements que Jésus veut nous donner au travers de l'histoire de Noé. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham, Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec les arbres. » Le résumé, bon, on va s'arrêter là. « Je vais détruire. » La terre était remplie de la terre de violence. « Je vais détruire la terre. » Donc après, Dieu dit à Noé, « Bon, comment il fait pour se sauver de ce monde ?» Donc, on voit en fait, on est chapitre 6, on est 6 chapitres avant, après l'expérience, Dieu a créé le monde, la terre, tout ça. Bon, on n'est pas très loin de la création, 6 chapitres. Et l'homme va faire une douloureuse expérience, cette expérience de vivre sans Dieu. L'homme a été chassé du jardin parce qu'il a péché, et il va faire une expérience de vivre sans Dieu. Et qu'est-ce que ça va engendrer? La corruption et la violence. Et ça va faire quoi? Ces attitudes vont attirer un jugement de Dieu sur le péché de l'humanité. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on voit un moment, dans certains passages vers la fin, Dieu déverse les coupes de sa colère sur l'humanité. Tout ce que les hommes font, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice, enfin bon, bref. Sachez que Dieu a réservé un jour où tout ça sera jugé. Et c'était, voilà, l'histoire de Noé, c'est ça. Ils ont commencé à se multiplier, ils ont rempli la terre de la violence. Toute chair, bon, je préfère l'autre version qui dit, toute chair avait corrompu sa voie. En fait, le chemin sur lequel Dieu avait tracé pour l'humanité, ils ont échoué. Ils ont fait à leur tête. Et les conséquences, c'est le jugement de Dieu. Mais, ce qui est important, ce qui est particulier dans cette histoire, c'est qu'on voit un homme, parmi toute cette génération perverse, corrompue, qui fait contraste, qui fait un contraste avec ça. Un homme va sortir de cette génération perverse, c'est Noé. La Bible nous dit, Noé était un homme intègre et juste dans sa génération. C'est quoi l'enseignement pour nous? Parce que bon, on est en 2019. L'enseignement pour nous, c'est qu'on peut vivre dans une génération perverse sans être absorbé par cette génération. Noé vivait dans une génération où toute chair avait corrompu sa voie, mais la Bible nous dit, mais Noé était juste et intègre. Vous voyez, dans le boulot, tout le monde vole, tout le monde triche, oh, c'est pas grave, bon, mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser absorber par ça. Tout le monde ment. Hein? Vous n'êtes pas obligé de vous laisser absorber par ça. Enfin, je dis vous, je m'inclus. On n'est pas obligé de se faire absorber. Aujourd'hui, quand on voit nos politiques, aujourd'hui, en Allemagne, on parle même d'un troisième genre. On n'est plus ni homme ni femme. Bon, les gens choisissent. Mariage pour tous. Enfin, sauf pour Hollande qui a fait cette loi. En fait, c'est vraiment. Oh, mais le monde va. Même les gens qui ne croient pas en Dieu se disent, mais il y a un truc qui ne va pas dans ce monde. Mais oui, Jésus a dit ça en fait. Dans les temps de la fin, le péché va augmenter. Le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus trop se marier. Bon, pourquoi se marier? Bon, c'est pas. Bon. Et la Bible nous dit qu'il faut se marier en fait. Dis oui, mais c'est pas important. Oui, bon, ok. Bref, je ferme la parenthèse, j'ai un index personne. Donc en fait, tout ça, la Bible nous dit que ça va augmenter, le péché va augmenter. Et le péché va augmenter et ça va arriver à un certain moment, à un niveau. Vous savez, quand vous dites cette expression, voilà, c'est bon, ma coupe déborde. C'est le, hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas 10 gouttes, hein, c'est une goutte. En fait, ça monte jusqu'au plafond. À un moment, quand le péché atteint le summum, atteint le non-retour, Dieu intervient et Dieu juge. On voit dans l'histoire, le livre d'Apocalypse, ça veut dire que le péché est arrivé, il a atteint son sommet en fait. Et Dieu ne peut plus ne pas agir. Il intervient par le jugement du péché. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Donc c'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Jésus, si on compare avec Noé, c'est un peu notre arche. Noé, c'est, t'as vu? Bon. En fait, Dieu a donné un plan bien détaillé à Noé. Les détails, tout ça. Bon, faut construire l'arche. Voilà. Notre arche, c'est Jésus. Si on veut échapper à ce jugement qui vient, la bouée, c'est Jésus. Ce qui est sûr, c'est que le jugement vient. Qu'on le croit ou pas, qu'on le veuille ou pas, il va venir. À l'époque de Noé, il n'y croyait pas. Et il ne voulait pas non plus qu'il y ait un jugement. Mais c'est quand même arrivé. Et Noé vit dans cette génération perverse. Mais la Bible nous dit, il ne s'est pas laissé absorber. Mais comment il a fait? Le texte nous dit, parce qu'il marchait avec Dieu. Dans une génération mauvaise, perverse, en fait, nous devons marcher avec Dieu. Si nous ne voulons pas être absorbés par cette génération, rester intègre, fidèle, c'est de marcher avec Dieu. C'est ce que Noé a fait. Mais Dieu ne fait pas périr les méchants et les justes. Il prend ses justes, ceux qui ont marché avec lui. Il dit à je t'ai vu juste. Nous comprenons? Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous passez à la télé, vous dites Dieu, bon, les gens. Bon, encore, c'est aux États-Unis, ça passe. Mais en France, on te dit non, c'est laïque. Faut parler de Dieu à la télé, non, c'est laïque. C'est dans la sphère privée. Si vous. Aux États-Unis, si vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas trop de chances d'être élu parce que. Bon, c'est un peu compliqué. Mais en France, si vous dites que vous croyez en Dieu, ça devient un peu compliqué. En fait, c'est ça. La révolte, on arrive dans une société, dans l'humanité, se révolte contre Dieu. Et Dieu nous appelle à construire notre arche, à donner notre vie au Seigneur Jésus. Parce qu'il y a un jugement qui vient. Et ne pas se faire absorber, c'est en méditant, en étant attaché à la parole de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. C'est pas notre maison, c'est pas notre travail. Notre arche, c'est Jésus. Et on aime Jésus, on s'attache à sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ok? Je peux continuer? Donc je disais, malgré ce qu'on voit, Noé, lui, Il s'est pas laissé absorber par ça. Et dans le texte qu'on a lu au début, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, alors, deux, si on peut revenir à Matthieu. Alors, les hommes ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. On entend des gens dire, bon, j'ai entendu, bon, depuis le temps de mes grands-parents, on m'a parlé du retour de Jésus. Mais ma grand-mère est décédée, ma fin, ceci, cela, on n'a rien vu du tout. Bon, est-ce que Jésus va vraiment venir un jour? Même parfois dans l'église, on se pose les questions, bon, est-ce que c'est pas, une fois j'ai entendu, oui, mais le retour du Seigneur, est-ce que c'est pas juste quelque chose de spirituel? Non, en fait. Jésus va vraiment venir, en fait. Et là, la Bible nous dit, verset 40, alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous imaginez, vous êtes en train de travailler avec votre collègue au bureau et tout, ou on va dire un cas plus tragique, vous êtes le pilote de l'avion, c'est un chrétien, et la trompette sonne au moment où, je ne sais pas moi, un long voyage. Vous faites, bon, on va dire, Paris, Los Angeles. Et là, c'est à ce moment-là que Jésus décide de rappeler. Bam, plus de pilote dans l'avion. En fait, c'est exactement comme ça. Deux hommes qui mourront à la meule, deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise. Vous êtes assise en face de votre collègue. Et c'est le temps. Bam. Le temps, la trompette sonne, c'est le moment de partir. Et nous partons. C'est vraiment, c'est un message qui nous encourage à rester attachés au Seigneur. Et dans les recommandations que le Seigneur Jésus donne, il dit, restez donc vigilants puisque vous ignorez. Bon, moi je préfère la version veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et il va venir. Mais avant son retour, le Seigneur nous donne des recommandations, c'est de veiller. Et vous lire ma version parce que je préfère ma version. Restez vigilants. J'aime pas trop. Je suis attaché au vieux français en fait. Ah, au verset. Sachez le bien. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On voit dans ce qui a été dit, en fait, tout le monde ne partira pas forcément. Seuls les enfants du Seigneur partiront. Et ça, c'est important. Pour nous, comme Noé a fait pendant presque une centaine d'années, a annoncé la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à notre entourage. Parce que Dieu nous place dans des endroits, si on peut être aussi un témoignage, être un témoin de ce que Dieu fait dans notre vie, pour pouvoir annoncer l'évangile, tout comme Noé a été un témoin pour sa génération, nous, Dieu, par le fait qu'il nous ait placés dans des endroits, nous devons être un témoin aussi pour notre génération. Pour annoncer ce que Jésus a fait, pour dire au monde qui nous entoure, il y a une autre alternative. Si tu t'attaches à ce monde, en fait, tu risques de périr avec ce monde. Mais il y a une issue, c'est Jésus. Tu peux encore te mettre à l'abri parce que le jugement vient. Donc, oui, le monde se corrompt, mais Dieu nous place dans des endroits stratégiques pour montrer comme Une lumière, nous sommes comme un phare qui brille dans les ténèbres. L'Église du Seigneur est là pour montrer, pour dire, montrer la voie. Il y a une autre voie, il y a une autre issue. On n'est pas obligé de faire, tu n'es pas obligé de faire comme ça. Tu n'es pas obligé de te suicider. Il y a une autre issue. Jésus est là. Jésus est venu pour te donner la vie. Et veillez, puisqu'on ne sait pas. Dans le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, en début de chapitre, il fait remarquer, enfin, je disais, la beauté du temps, mais le Seigneur dit aux disciples, en fait, faites attention, veillez. Veillez, c'est comment on veille? C'est veiller sur notre marche avec le Seigneur. Faire attention aux fausses doctrines. C'est veiller, ça. Comme l'évangile de prospérité. On prend une parole de Dieu qui est vraie, mais le sens est détourné pour manipuler les gens. Exemple, bon, vous allez tous devenir riches. Mais c'est faux. Mais le Seigneur nous demande de veiller. De veiller à ça, veiller. Parce que quand on lit la suite, la parabole, si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, il ne serait pas percé. En fait, nous devons veiller. Mais pour veiller, en fait, il faut qu'on étudie la parole. Il faut la connaître. Il faut la méditer, il faut la lire, il faut échanger, il faut en parler. Enfin, faut la peser, en fait. Si, bon, il est écrit quelque part dans la Bible, ça peut arriver qu'on ne sait pas tout. Mais nous devons la lire. Nous devons la comprendre. Nous devons la confronter. Veiller, en fait, quand quelqu'un nous dit, oui, bon, mais, bon, allez, on n'est pas obligé de croire en Jésus pour être sauvé, quoi. Bon. Sauf que la Bible nous dit, pas de Jésus, pas de salut, quoi. Bon, pour faire la version courte, quoi. Pas de Jésus, pas de salut. Si tu veux entrer, tu dois passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Si tu passes par un autre endroit, c'est que tu es un voleur. Et bon. Dehors, les chiens, les voleurs. En fait, il faut veiller. Veiller, c'est monter la garde. Vous voyez, dans les miradors, là, où vous... Oh, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un voleur, oui. Identifiez-vous. Vous êtes qui? Oh, voilà. Non, non, en fait, voilà. On veille. On sent que... On veille aussi. On peut aussi veiller sur nos frères et nos sœurs. Bon, frère, je sens que le chemin que tu prends là... Bon, c'est pas trop bon. Je ne dis pas de juger, mais si tu peux donner un conseil à ton frère. En plus, c'est ton frère. S'il sait que tu l'aimes, bon, mon frère, c'est que le chemin que tu prends là, c'est pas. Voilà, tu files un mauvais coton. Et on voit l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Notre seule arme contre la séduction, c'est la parole de Dieu. Une des raisons pour lesquelles nous devons veiller et prier se trouve dans Matthieu 26. Est-ce que je l'ai mis ça? Ah non, je ne l'ai pas mis. Hein? Matthieu 26. Il revint vers la disciple qui trouva endormi et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé. Bon, la version là. Bon. Une seule heure avec moi. Restez vigilants encore. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais... La nature de l'homme. Bon, bref. La chair. Laisse veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Si vous lisez la fin de l'histoire du chapitre, Jésus vient, bon, il dit, bon, vous n'avez pas pu veiller une heure. Après, il les savonne un peu, tout ça. Il dit, bon, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. La fin du chapitre, on va voir une petite histoire. Pierre va chuter. Pierre va renier Jésus. Pourtant, le même Pierre auparavant, il dit, « Oh non, Seigneur, ceux-là, ils vont te larguer. Mais moi, jamais, jamais je vais te lâcher. » Jésus dit, « Veillez, priez. » Pourquoi nous devons veiller et prier? Veiller, c'est pourquoi? Pour ne pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de tentation. Ouais, bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments difficiles. Veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Pierre, je ne sais pas s'il avait bien pris en considération ce que Jésus lui avait dit, mais la suite du chapitre nous montre que Pierre va renier Jésus 3 fois. Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu me renieras. Il a renié Jésus. Veillez, priez pour ne pas tomber. Ok, c'est bien de veiller, mais c'est aussi important de prier. En fait. Avant le retour du Seigneur, voici ce qu'il nous dit. Veillez prier, enfin dans ce chapitre, veillez prier. Quand on ne veille pas, ça ne veut pas dire qu'on va. Voilà, quand on ne veille pas, il y a des risques. Veillez prier nous évite de tomber. Ok? Ça nous donne la force de dire non au péché. Parce que vous savez, nous avons lu, nous ne sommes pas esclaves du péché. Jésus nous a délivrés du péché. Nous ne sommes pas esclaves. On peut dire non. Tu sais que tu n'aimes pas trop ton voisin, tu dis le juif me parle, je lui mets une droite. Bon, tu n'es pas obligé de lui mettre une droite, parce que Jésus t'a délivré, tu n'es pas esclave de tes pulsions. Ok? Tu sais, moi je viens des îles, je suis un peu révolutionnaire, indépendantiste. Donc je veille. Quand j'ai des discours trop révolutionnaires, j'écoute pas. Parce que je sais que ça ne va pas me faire du bien. Parce que je sais qu'il y a le terreau qui est là et le Seigneur m'a déjà délivré. En fait, je fais attention. Je dis non, non, c'est bon. Et on fait une réunion, là, on parle de la Guadeloupe. Je dis non, non, je viens pas, c'est bon. On va reprier pour... Non, non, ça... Parce que je sais que mon cœur est disposé à certaines choses. Donc, je veille. Je sais que... Non, je vais pas trop regarder ça parce que ça va m'énerver et ça va pas le faire. Hein? Vous comprenez? Je veille parce que vous savez ce qui vous pose problème. Hein, vos ennemis, vous les connaissez. Donc, faut pas nourrir vos ennemis. Sinon, les ennemis ils vont devenir forts. Et vous allez vous retrouver à faire des choses, dire des choses que vous n'aviez pas envie de dire. Mais en fait, c'est dit. Et une fois que c'est dit, c'est dit. Bon, après, on peut toujours demander pardon. Parce que, voilà. Mais c'est quand même fait. Hein? Donc voilà, même si je vous aime bien les gars, mais non, sans moi. Sans moi. Ok? Donc veillez et priez pour ne pas tomber. Car l'autre adversaire, il rôde. Hein? Il connaît un peu nos points faibles. Lui, on peut. Tu pousses un peu comme ça, là, tu touches. Pas la droite, tu peux toucher. Il ne va rien faire. Mais la corde sensible, c'est la gauche. Dès que tu touches la gauche, ça part seul. Bam! Hein, c'est des réflexes. En fait, il faut veiller. Ça nous parle un peu. En tout cas, moi, ça me parle. Ah, Seigneur. Donc, Pierre, voilà. L'histoire, vous lisez là, le chapitre. Le gars là qui était zélé, il prend même un couteau, il coupe l'oreille, montre à Jésus qu'il est zélé. Et quelques temps plus tard, le gars, il dit, non, moi, je ne le connais pas, ce gars. Moi, je te promets, je te le jure, je ne le connais pas. Bon, je caricature un peu. Je ne l'ai jamais vu. Ouais, ça résonne. C'est monter la garde, comme je disais, veiller, faire attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, car les choses nous influencent. Donc, le seul remède contre ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas que nous influencer positivement. Mais elle nous transforme. Nous voulons être transformés. Donc, il faut lire la parole. Ouais, bon. Si on attend que le dimanche pour que le Todd, Luc fasse un bon message pour qu'on soit reboosté dans la semaine, ben, c'est dommage. C'est bien que, voilà, que vous soyez reboosté le dimanche. Mais c'est dommage. Parce que, bon, si Todd va pas forcément vous faire le plein pour toute la semaine, il va vous donner pour lundi, mardi, mercredi même. Hein? Mais après, il y a jeudi, et là, bon, tu dis, ah, jeudi, puis on est encore jeudi, mais c'est quand dimanche vient, en fait? Dimanche, arrive vite! Mais en fait, c'est un peu comme l'histoire de la manne. Chacun se levait, en fait, pour aller chercher la manne. Mais celui qui avait trop, il donnait à celui qui n'en avait pas assez. Mais celui qui n'avait pas assez, il était quand même sorti. Vous voyez? Donc, il n'avait pas rempli tout son truc, tout son réservoir, mais celui qui avait trop pris, donnait. Mais comme son réservoir était à moitié, donc ce que l'autre lui donnait pouvait lui permettre de tenir la semaine. Enfin, vous voyez, la Bible dit celui qui avait trop n'avait pas trop, celui qui n'avait pas assez n'en avait pas assez. Bon, c'est un peu bizarre ce texte, mais en fait, voilà, celui qui avait trop, il donnait à celui qui n'avait pas pris assez. Et c'est pareil. Le prédicateur, il vient, il vous donne, Todd, Luc vous donne le surplus. Parce que lui, il faut qu'il tienne aussi sa semaine. Ok, il vous donne le surplus. Mais si vous n'aviez rien, votre réservoir est vide. Ça allait durer 2 jours. Ok? Je continue. Et aussi, le Seigneur nous demande d'être prêts. Deux exemples. Matthieu 24, je vous lis. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, car il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, dans ce texte, on voit Matthieu 24, à partir du verset 46, enfin plutôt 45, être fidèle et prudent. On voit un serviteur à qui le maître a confié une tâche pour un certain temps, ne connaissant pas la date du retour du maître. Ce serviteur accomplit pleinement sa mission. Le maître, à son retour, trouve ce serviteur en train d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Le maître nous dit que c'est un homme heureux qui l'établira sur tout ce bien. Cette parabole est un encouragement pour nous à être fidèles dans le ministère que Dieu nous a confié. Nous pouvons voir aussi que notre fidélité sera récompensée au retour du Seigneur. Dieu nous confie des tâches dans l'Église, il faut qu'on soit fidèle. Un serviteur prudent et fidèle. Bon, on ne fait pas les choses parce que Todd est là, ou parce que Thierry est là, ou parce que Luc nous l'a dit. On fait les choses parce qu'on le fait pour Dieu. On aime Dieu, on le fait. Un serviteur, voilà. Il ne sait pas quand est-ce que le maître va venir, mais il fait son job. Il fait son activité. Et le maître, à son retour, le trouve en train de faire ce pourquoi il a engagé. Et le maître dit, c'est un homme heureux, parce que je vais lui donner encore, je vais l'établir sur tous mes biens, sur plus de choses. Fidèle. C'est les exemples, on est toujours dans Matthieu 24. Être prêt en étant fidèle. La fidélité, ce n'est pas en option, en fait. C'est un trait de caractère. Être fidèle à la parole de Dieu. Être fidèle dans la tâche que le Seigneur nous a confiée. Et ne pas faire comme le méchant serviteur. Dès que le maître a le dos tourné, hop, je prie ce matin que nous ne soyons pas comme ça, que nous soyons des gens fidèles. Prudents. Et la fidélité dans le service que le Seigneur nous a confié. Ça, c'est important. J'insiste là-dessus. Et pas faire les choses au gré du vent. Aujourd'hui, je me sens bien, il fait beau, allez, je vais être fidèle. Aujourd'hui, il pleut, bon, je ne vais pas être fidèle. Non, en fait, c'est tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments difficiles, en fait. Comme je disais, en fait, là, veiller, prier, ça ne veut pas dire qu'on va pas, on n'aura pas des tentations. Mais on aura la force de résister. C'est vrai, si on tombe, Dieu nous relève. Pierre, Dieu l'a relevé. Mais on peut éviter de tomber. Mais ça, c'est en état attaché. Et après, au chapitre 25 de Matthieu, on parle de la parabole des 10 vierges. Vous connaissez cette histoire. Les 10 vierges, les vierges folles, les vierges sages. Bon, à un moment, voilà, qui partent à la rencontre de l'époux. Et on frappe, on dit, ouais, toujours dans la continuité du chapitre 24, on est au chapitre 25 maintenant. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages, celles qui étaient folles, ne prirent pas l'huile avec elles en emportant leur lampe. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit en criant « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en veulent en acheter pour vous. » Donc, en fait, on est dans une parabole. Une parabole que le Seigneur nous donne. En fait, voilà. Quand vous lisez, ça ne veut pas dire qu'il y aura 50% des gens qui seront sauvés, 50%, voilà, c'est pas ça, c'est une parabole. Il y avait 10 vierges, il y avait 5 sages. En fait, c'est une façon d'expliquer, enfin, c'est dans la culture hébraïque, c'est un peu comme ça, des trucs. Bon. En fait, on voit des vierges qui ont reçu les mêmes informations. Mais, en fait, la différence fait que les réactions ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Dans l'Église, le même message est prêché. Dieu nous donne sa parole. Le message est prêché. Et ça crée, en fait, il y a des gens qui prennent au sérieux, dans ce cas-là, qui ont considéré les paroles et qui ont pris de l'huile. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, donc on fait des provisions. C'est ça, en fait, la sagesse. Donc, elles ont pris de l'huile, les autres n'en ont pas pris. À un moment donné, il y a une différence qui se fait. L'époux arrive, pas d'huile. Cela nous enseigne que nous devons. Tout ce que la Bible dit est vrai, en fait. La Bible, ce n'est pas une carte de menu, ou une carte de restaurant, bon, menu de restaurant, où tu prends ce qui, où on prend ce qui nous intéresse. En fait, il faut tout prendre. Parce que tout est vrai. La Bible, ce n'est pas un livre, comme certains pourraient dire, qui contient la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Vous voyez la différence? Entre oui, ça contient la parole de Dieu, bon, il ne faut pas tout prendre. Non, en fait, tout est à prendre. Les vierges folles et les vierges sages, elles ont reçu les mêmes informations, mais il y en a qui ont bien considéré ce qui leur a été donné. Elles n'ont pas pris au sérieux les paroles de l'époux. Je vais venir, je ne sais pas quand. La sagesse, me disait un pasteur quand j'étais petit, c'est la mise en pratique de la connaissance. Dieu nous transmet, nous donne sa connaissance dans sa parole. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Bon, c'est rentré, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bon, tout ce qu'on entend ne nous donne pas forcément la foi. Mais la parole de Dieu nous donne la foi. La parole de Dieu en disant, ça nous fortifie. Si on passe notre temps à regarder la télé, à écouter les infos, moi j'aime bien regarder mes BFM, des fois le divin me dit, mais comment tu peux regarder ça? Bon, j'aime bien les infos, les trucs politiques, l'économie. Bon, je peux regarder ça pendant longtemps. Mais ça ne me donne pas la foi. Après, si je suis trop fatigué pour lire la Bible, bon, là, je vais. Bon, là, c'est problématique. La foi vient de ce qu'on entend, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous voulons avoir la foi. Il faut passer du temps avec Dieu. Il faut passer du temps dans la lecture de sa parole. Ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettons-la en pratique. La sagesse, c'est ça, mise en pratique. Ça m'est resté quand même. C'est très jeune, mais la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Et la connaissance, c'est Dieu. C'est ce que Dieu nous donne. Et je vais finir ainsi. Apocalypse 22. On n'a pas tout lu, mais c'est pas. Bon, on lira Pierre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. En fait, là, je viens bientôt se traduit aussi, je viens vite. Je viens rapidement. La venue du Seigneur va se faire rapidement. Et c'est ainsi que s'achève le livre d'Apocalypse, de Genèse, chapitre 22, verset 20 dit, oui, je viens vite. Comme pour dissiper tout doute dans notre esprit, ceux qui pourraient penser que, voilà, bon, la Bible contient la parole de Dieu, c'est pas tout à fait. Jésus dit, je viens bientôt. Amen, Viens, Seigneur. Et on commence le verset, celui qui atteste ces choses dit, c'est Jésus qui dit, je viens vite, je viens bientôt. C'est un rappel qui vient dissiper tout doute dans notre esprit. Il utilise un jugement passé de l'humanité pour nous parler d'un jugement à venir qui est certain. La vie de Noé nous enseigne qu'on peut vivre dans un monde corrompu sans être absorbé par ce monde. En marchant avec Dieu. Car si nous ne marchons pas avec Dieu, nous ne pourrons pas résister à ce monde. Nous sommes appelés à veiller, à prier pour ne pas tomber en tentation. À être prêts en s'assurant que notre vie appartient à Jésus, car le Seigneur peut arriver à n'importe quelle heure. À être fidèles dans le ministère que Dieu nous a confié, parce qu'il nous demandera des comptes. Un peu comme le serviteur, la parabole, Dieu demande des comptes. Nous sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu dans une totale obéissance. Car la venue de notre Seigneur est aussi certaine que l'aurore. Oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur, viens. J'en ai fini, je vais regarder juste une petite vidéo. Est-ce qu'on peut dire à Stéphane, parce que Stéphane... qui peut venir pour regarder la petite vidéo avec les enfants. Et après, on va prier. Si ça peut nous aider à nous rapprocher davantage du Seigneur. Si ça peut nous...
Éteindre au-dessus.
Oui. Au-dessus. Je passe dessus pour éteindre.